Féminin, masculin, les statues menhirs ont-elles leur mot à dire?
Les statues menhirs qui ont des bouches, il y en a 5. Sur un corpus, on en est près de 160.
Nous sommes avec Aurélien Pierre, dans la salle des statues menhirs du musée Fenaille à Rodez. C'est là qu'il y a la plus importante collection de statues menhirs de France.
Elles ont des yeux, elles ont souvent le nez qui est représenté, la délimitation du visage. Alors ça dépend des statues menhirs, parfois c'est un simple bourrelet, parfois c'est quelque chose de gravé. Et ensuite on a les bras, les jambes qui sont représentées, la ceinture, et ensuite des attributs qui sont différents selon les sexes. Donc pour les statues menhirs féminines, ça va être la représentation des colliers, des seins, d'un pendeloque, de la chevelure dans le dos. Et pour les hommes, ça peut être arc, flèche, ce qu'on a ici. Donc on a du mal à discerner, mais on a une flèche ici et là, vraisemblablement, c'est l'arc. On peut avoir une hache aussi, et puis surtout cet objet poignard qui est présenté sur un baudrier. Donc ça sont les attributs masculins. Et sur certaines statues masculines, on a en plus une boucle qui se positionne sur la ceinture.
Ingrid Sénépar, une archéologue qui a travaillé sur les objets représentés sur ces statues, nous rejoint.
Et donc l'idée, c'était de savoir si ces objets qui étaient représentés sur ces statues menhirs masculines avaient des correspondants en fait dans l'outillage en os et en bois de cervidés, et surtout en bois de cervidés que l'on retrouvait dans les fouilles. Et on les retrouve dans certaines tombes associées à des individus. Donc on s'est demandé si ça pouvait être des objets représentatifs d'un certain pouvoir. Ça peut être un couple. Ça peut être un couple de fondateurs, ça peut être un couple d'ancêtres, ça peut être des héros civilisateurs. Les héros civilisateurs, ce sont des personnages qui amènent des découvertes, ou en tout cas ces découvertes sont associées avec des personnages pour justifier le fait qu'on s'approprie cette découverte ou cette nouvelle technique. Par exemple, la dame de Saint-Sernin, elle porte un autre objet qui est aussi en bois de cervidés et qui est une pendeloque. Enfin, qu'on associe à une pendoque qui existe, hein, et qui, pour certains, est une navette, c'est-à-dire un objet qui permet donc de tisser, enfin, d'être utilisé dans le tissage. Le tissage, c'est quelque chose de très féminin, mais c'est peut-être aussi l'image d'une femme puissante, à une puissance à la fois symbolique, puisqu'on tisse le monde, hein, et puis économique, et donc qui serait représentée à partir du moment où on acquiert ces techniques.
Philippe Grua, directeur du service archéologique de l'Aveyron, a la chance de fouiller un site de l'âge du fer, les Touriès. Les statues anthropomorphes qu'il a découvertes sont en quelque sorte les descendantes de celles dont parle Ingrid Sénépar, mais là il semblerait qu'on ne trouve plus de statues avec des attributs féminins.
La société entre la fin du néolithique et l'âge du fer évolue, même s'il y a des similitudes. La statuaire qui s'intègre dans le mégalithisme, c'est une hiérarchisation de la société. La grande différence entre la société de l'âge du fer et la société, je dirais, de la fin du néolithique, c'est qu'ils sont devenus un petit peu machos entre-temps. Il y a beaucoup de guerriers. Alors qu'au néolithique, avec les statues menhirs, il y a à peu près autant de statues féminines que masculines. Et donc c'est plutôt, on figure des ancêtres. À l'âge du fer, on figure des ancêtres, mais qui sont héroïsés, ce sont les élites, l'élite. On représente dessus des guerriers, en armes, avec leur cuirasse et le cardiophylax, qui est le disque cuirasse, qui est réservé à l'élite de l'élite, aux guerriers supérieurs, aux princes, aux caciques, comme on dirait. Et aux Touriès, les statues, on les érige à certaines phases, et puis on abat, on brise celle du prédécesseur, c'est la guerre des chefs. Et dans les ceintures grecques, c'est la guerre des chefs, parce que c'est celui qui met la plus grosse statue, qui met le plus gros char, qui met les plus belles offrandes. Donc il y a cette compétition qu'on retrouve aux Touriès, mais sous la forme de statues et de stèles, qu'on brise quand c'est les prédécesseurs, et qu'on conserve dans une espèce de héron ou de monument commémoratif quand c'est la lignée qui est au bon moment au pouvoir.
Une nouvelle génération de chercheurs redécouvre ces statues et réinterprète parfois ce qu'elles signifient. Aujourd'hui, les études de genre sont incontournables. Pour rappel, c'est un champ de recherche pluridisciplinaire qui étudie les rapports sociaux entre les sexes. Le genre y est considéré alors comme une construction sociale. Cela permet de ne pas prendre comme naturel et irréfutable ce qui définit le masculin et le féminin. Les attributs de genre variant suivant les lieux et les époques. Appliqués aux statues menhirs, qui ont la particularité d'être transformés, et donc de passer d'un genre à un autre, cela devient passionnant. Nous sommes avec Juliette Badanera, une jeune étudiante en archéologie, et Luc Jalot, son enseignant. Nous sommes au musée Fenaille, devant la statue menhir du Masse-Vieille, une statue menhir qu'elle nomme transgenre.
Elle a un poignard et elle a les deux seins. On a l'impression que le poignard a été effacé, mais il n'a pas du tout été effacé. C'est probablement un accident postérieur. Je l'ai regardé pendant 10 minutes tout à l'heure, l'original. Pour moi, voilà, si Juliette parle de transgenre, et ben voici une statue transgenre qui n'est ni homme ni femme, qui est biologiquement à définir, socialement à définir. Voilà. C'est vrai que les guerriers celtes, par exemple, avaient des seins représentés sur leurs armures. Hein, donc. Mais ça aussi, ça nous en dit beaucoup. Le pharaon, par exemple, les pharaons de l'époque classique, avec le visage très allongé, avec des hanches larges, avec une poitrine qui est pratiquement des seins. Pourquoi ils étaient comme ça? Parce que à eux seuls, ils représentaient l'ensemble de l'humanité, donc aussi bien féminine que masculine. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les hypothèses d'égyptologues. Là, on est sur la fusion symbolique des deux parties de l'humanité, les hommes et les femmes, mais ça va peut-être même au-delà. Il est possible, regardez dans la Grèce antique, les personnes androgynes qui étaient représentées sous forme de dieux. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Mais ça va bien au-delà, si vous voulez, de la simple représentation. Il y a tout un contenu qui gravite autour, qui est très vaste. Moi, je suis un novice dans le domaine, mais j'ai senti que c'était intéressant de donner le sujet à un étudiant.
Voilà. Juliette Badanera nous donne la définition de quelques termes pour en poser les bases. On commence par transgenre.
C'est un terme qui permet de prendre en compte la multiplicité des interprétations dans la lecture des différents stades de ces statues menhirs. Elles sont transformées et en fait, au fil de leur utilisation, elles vont passer par exemple d'un stade qui va être masculin à féminin. Et l'idée, c'est que par exemple, lorsqu'on parle de statues menhirs transsexuelles, en fait, on parle du passage d'un genre à un autre, d'un genre masculin à féminin. Et lorsqu'on parle de statues menhirs androgynes, on parle donc de la coexistence des genres masculins et féminins sur un même stade, sur une même représentation. On parle aussi d'attributs que nous-mêmes nous avons genrés, avec nos propres biais. On a des statues menhirs transformées, où en fait, ces attributs cohabitent, ils ne s'excluent plus. Et dans ces cas-là, la question c'est qu'on arrive vers en fait, une binarité des genres qui est troublée, qui est trouble. Et là, c'est intéressant parce que là, naissent les interprétations et en fait la question justement du régime de genre de ces sociétés.
Il y a aussi les nouvelles techniques qui transforment nos interprétations.
Alors, moi, je m'appelle Jules Masson-Moret et je suis doctorant en préhistoire, en archéologie préhistorique à l'Université d'Aix-Marseille, au Lampéa. Et je travaille sur les stèles anthropomorphes néolithiques du sud-est de la France.
Et alors, ce qui est extraordinaire en vous écoutant tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que vous les avez redécouverts.
Oui, effectivement. C'est la magie, entre guillemets, de la lumière rasante et puis de la RTI. C'est de faire apparaître ces choses qui n'étaient pas apparues à certains spécialistes qui pourtant observent les statues menhirs depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et c'est vrai que des outils comme la RTI permettent de compléter, encore aujourd'hui, des observations sur des statues menhirs qui sont connues depuis un siècle et demi.
En deux mots, la RTI, c'est quoi? C'est un procédé photographique?
La RTI, c'est ça, c'est un outil numérique. C'est l'acronyme de Reflectance Transformation Imaging. Et c'est un outil numérique, en gros, qui permet de produire une image dynamique d'un objet en général, mais là, d'une statue menhir en particulier, et pour pouvoir l'observer sous différentes lumières rasantes. Celle de Saint-Léonce, qui est brisé au sommet et au niveau de la cassure. Donc il y a cette petite protubérance qui était interprétée jusque-là comme l'extrémité d'un poignard ou d'un fourreau, ce qui revient à peu près au même en fait. Et la RTI permet de se rendre compte qu'en fait non, c'est certainement pas un poignard, mais plutôt l'enfourchure d'une pendeloque dite fusiforme ou en Y, qui sont des attributs qui caractérisent les statues féminines plutôt que masculines, étant donné que le poignard était un objet lui plutôt masculin. C'est vrai que ça change du coup le sexe, si ce n'est le genre de la statue. C'est vrai qu'il y a des statues menhirs qui ont été transformées à tellement de reprises, parfois 4 ou 5, qu'en fait on n'arrive quasiment plus à démêler quel était l'état originel, quel était le second état, le troisième état. Et ça, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des cas de transformation, c'est vraiment pour faire passer la statue menhir d'un sexe ou d'un genre à l'autre. Donc on passe du féminin au masculin, puis on revient au féminin, puis à nouveau au masculin. Mais c'est pas toujours évident de savoir dans quel sens ça s'est fait. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est significatif. Est-ce que toutes les statues menhirs étaient masculines à l'origine et puis on les a transformées en féminines, ou est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens?
On n'a pas fini de faire parler les statues menhirs et de douter des interprétations précédentes. Luc Jalot.
Là, je discutais avec le conservateur du musée de Rodez, et effectivement, même sur celles qui ont l'air d'être dans leur jus, qui ont l'air d'être pratiquement sorties de la terre telles qu'elles étaient, on peut se demander si elles n'ont pas également été transformées. C'est le cas de la statue menhir de Saint-Cernin, c'est le cas de la statue menhir de Sénum qui est à côté, qui a probablement une histoire complexe. Thoriac, c'est la statue menhir découverte à Thoriac, et son poignard qui est figuré devant, et qui n'est peut-être pas un poignard d'ailleurs, a probablement été plusieurs fois transformé, remis en scène. Il y a peut-être un bras sur le côté qui a été effacé ici, vous voyez, un bras qui a été effacé. Voilà. Alors, grâce aux nouvelles techniques de photographie, grâce aux nouvelles techniques qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, on va pouvoir examiner de plus près les monuments qui paraissent comme ça simples.
Et quand je demande à Juliette Madanera si elle pense que la statue de Saint-Léon a été identifiée comme masculine parce que nous sommes dans une société patriarcale et que de plus, les archéologues de l'époque qui travaillaient sur les statues menhirs étaient tous des hommes, elle éclate de rire.
Oui, ça c'est mon sujet de master, hein. C'est marrant que vous l'abordiez du coup. Mais en fait, oui, c'est super intéressant parce que oui, en fait, en tant que chercheur, et même moi en tant que chercheuse, j'ai des biais. Et en fait, on a les biais de notre contexte social. Et évidemment, vu qu'on vit dans des sociétés patriarcales, et en fait, on va avoir aussi ces biais-là qui sont présents et que parfois, oui, on va tendance à dire oui, c'est des hommes et du coup, c'est des guerriers et ils vont représenter le pouvoir. Et en fait, ça va rentrer aussi dans un imaginaire qui est collectif où en fait, on attribue aux guerriers cette place de pouvoir, d'un pouvoir un peu violent, sanguinaire, tandis que lorsqu'on va être face à des représentations féminines, on va utiliser un vocabulaire autre, un vocabulaire qui va être plus dans dans le fantasme, dans la parure, dans l'apparat. Donc c'est intéressant et c'est en effet lorsqu'on étudie un peu la littérature archéologique du XXe siècle autour de ces statues menhirs, c'est ce qu'on voit, c'est que en fait il y a un vocabulaire spécifique et très différent qui va être utilisé pour décrire les statues menhirs et les interpréter.
Justement, en travaillant avec les anthropologues, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés où le transgenre est intégré complètement dans la pratique sociale, hein. Des sociétés très différentes de la nôtre, des sociétés très proches. Et moi, franchement, ça m'intéresse, ça me plaît. Et si vous voulez, l'image du guerrier pré-avéronais allant à la conquête des territoires armé de son couteau, ça m'intéresse plus tellement, quoi. L'image de la montée des sociétés guerrières masculines, c'est réductionniste, c'est très réductionniste. Les sociétés anciennes étaient très complexes, elles n'étaient pas aussi simples que ça. Et les aborder avec des principes simples, c'est pas une bonne pratique. Et donc les discours sur le genre, c'est vraiment intéressant.
Alors la prochaine fois que vous verrez une statue menhir, changez votre regard, doutez. Et si vous allez au musée Fenaille, vous pourrez écouter des petites pastilles sonores. Il vous suffira de flasher le code QR qui se trouve sur les cartels au pied des statues menhirs. Une production Partage de Voix, soutenue par la DRAC Occitanie et le musée Fenaille. Réalisation, Agnès Maton, Sophie Pillot.